Vous écoutez, on lit pour vous.
Les poubelles remplies de matières recyclables ou compostables. Un texte de Marco Fortier paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir. La plus grande partie du contenu des poubelles envoyées au dépotoir dans l'agglomération de Montréal reste composée de matières qui auraient pu être compostées, recyclées ou réutilisées. Moins de la moitié des ordures ménagères, 49%, sont détournés de l'enfouissement pour être recyclés ou transformés en compost. Un résultat loin de la cible de 70% des matières résiduelles qui n'iraient pas au dépotoir. Malgré une diminution de la quantité d'ordures envoyées à l'enfouissement, l'agglomération de Montréal doit faire des efforts supplémentaires pour tendre vers l'objectif de produire zéro déchet en 2030, indique le bilan 2024 de la gestion des matières résiduelles que Le Devoir a obtenu. Les matières éliminées sont encore majoritairement composées de matières organiques ainsi que de matières recyclables et de résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants, explique le document de 58 pages. L'administration Plante se réjouit tout de même de signes encourageants tirés de son bilan de 2024. La production de déchets par habitant est en baisse malgré l'augmentation de la population. La collecte des matières organiques dessert désormais 93% des résidences. La cible de 100% sera atteinte en 2025 et l'espacement de la collecte des ordures, malgré les défis qu'il comporte, démontre son efficacité avec moins de déchets envoyés au dépotoir et plus de compost. Des efforts essentiels. Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun et responsable de l'environnement au comité exécutif de la ville, insiste. Il faut diminuer davantage le volume de déchets envoyés au dépotoir. Le recyclage, le compostage et la réutilisation des matières résiduelles sont devenus incontournables. Les deux tiers des ordures générées dans la métropole sont envoyées à deux sites d'enfouissement qui sont presque remplis au maximum. Ces dépotoirs, situés à Terrebonne et à Saint-Thomas, ont soumis des demandes d'agrandissement qui font l'objet de discussions. Le reste des déchets produits par les ménages montréalais sont enfouis à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, à Sainte-Cécile de Milton, en Estrie, et à Drummondville, à 123 km du centre de Montréal. On a parcouru beaucoup de chemin depuis 5 ans pour réduire le volume de déchets envoyés à l'enfouissement. Ce n'est pas le dossier le plus facile. On doit bâtir la confiance de la population envers le système de gestion des matières résiduelles et on ne peut pas lâcher, dit Marie-Andrée Mauger. Le plus grand effort, c'est de réduire à la source la quantité de déchets générés. On a un rythme de consommation qui ne respecte pas les écosystèmes de la planète, ajoute-t-elle. Résistance aux bacs bruns. La quantité de matières résiduelles générées par habitant dans l'île de Montréal a diminué de 7% depuis 5 ans pour atteindre 427 kilos en 2024. La cible est toutefois de 399 kilos par habitant. Autre signe encourageant, le taux de récupération des matières recyclables a augmenté de 5% en 5 ans et celui des matières organiques de 30% durant la même période. La collecte des matières organiques, y compris les résidus alimentaires, sera implantée dans tout le territoire à la fin de l'année 2025. L'administration Plante compte accélérer des campagnes de sensibilisation et d'information parce que seulement 39% des matières compostables sont envoyées dans les bacs bruns, une tendance à la hausse, mais toujours loin de l'objectif de 60%. À peine la moitié de la population de l'agglomération montréalaise participe à la collecte du bac brun, selon les données de la ville. Il faut continuer nos efforts pour augmenter la participation à la collecte des matières organiques. On en envoie davantage à l'enfouissement qu'on en valorise. Notre défi est d'en détourner davantage de l'enfouissement, reconnaît Marie-Andrée Mauger. Collecte toutes les 2 semaines. Comme Le Devoir l'a rapporté récemment, il y a encore beaucoup de résistance à la collecte des ordures toutes les deux semaines, plutôt que chaque semaine, dans la métropole, y compris dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, MHM, où cette mesure est graduellement entrée en vigueur. L'espacement de la collecte des déchets toutes les deux semaines dans MHM donne des résultats encourageants, selon la ville. La quantité de matière organique collectée dans le secteur a augmenté de 29 % en un an. Quant au volume de déchets enfouis, il a diminué de 11 %, ce qui fait de MHM l'arrondissement qui envoie au dépotoir le moins de déchets par habitant. L'arrondissement de Saint-Laurent a été le premier à instaurer la collecte toutes les deux semaines en 2015. Cette stratégie donne des résultats probants, a souligné Le Devoir. Un projet pilote de collecte toutes les deux semaines à 1000 adresses dans l'arrondissement de Verdun se révèle aussi un succès, selon la mairesse Maugé. L'administration Plante prévoit d'avoir étendu la collecte des ordures ménagères toutes les deux semaines dans l'ensemble des arrondissements en 2029. Il s'agit d'une mesure importante pour diminuer la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement, en complément des collectes du bac bleu et du bac brun qui ont lieu chaque semaine. La ville a déjà fait d'autres gestes forts pour réduire à la source le volume d'ordures générées. Les sacs d'emplettes en plastique ont été bannis dans les commerces, tout comme les articles à usage unique, notamment les ustensiles, les tasses et autres contenants de plastique dans la restauration. La ville a aussi remporté sa bataille judiciaire contre le Publisac, qui a été remplacé par une autre circulaire appelée Radar, qui nécessite un volume de papier réduit de 60 %. Cette publication n'est plus emballée dans une pellicule de plastique qui contaminait les centres de tri en se mêlant au papier recyclé. C'était « Les poubelles remplies de matières recyclables ou compostables », un texte de Marco Fortier paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir.
Le Bureau de la concurrence traîne DoorDash devant les tribunaux. Un texte de Marie-Ève Schaffer paru le 13 juin 2025 dans Protégez-vous. Le Bureau de la concurrence poursuit la plateforme de livraison DoorDash. Il l'accuse d'avoir indiqué de manière trompeuse les prix de ses services. Frais de livraison, frais de zone étendue, frais pour une petite commande et frais de réponse réglementaire, DoorDash facture toutes sortes de frais à ses clients qui demandent la livraison de denrées et de biens via ses applications mobiles et ses sites Internet. Certains de ces frais sont parfois même présentés comme des taxes, selon les conclusions de l'enquête du Bureau de la concurrence dévoilée cette semaine. Résultat, les consommateurs payent un prix plus élevé que celui annoncé. Les rabais promis s'avèrent ainsi moins généreux. DoorDash aurait engrangé près $1 milliard depuis 10 ans grâce à ses frais, avance le Bureau de la concurrence. Une pratique trompeuse interdite. Depuis 2022, la loi sur la concurrence interdit les indications partielles des prix. Cette pratique trompeuse consiste à offrir des prix peu élevés pour attirer les consommateurs et à ajouter ensuite des frais qui ne sont pas annoncés. Les indications partielles de prix compliquent la comparaison des prix et peuvent vous amener à prendre des décisions mal informées, signale le Bureau de la concurrence sur son site Internet. L'organisme invite les consommateurs à formuler une plainte s'ils constatent que le prix payé pour des biens et des services ne correspond pas à celui annoncé par le commerçant. L'organisme canadien chargé d'appliquer la loi sur la concurrence a déposé cette semaine une requête devant le tribunal de la concurrence. Il réclame que DoorDash cesse de tromper les consommateurs en présentant ses tarifs, paye une sanction et dédommage les personnes lésées. Les frais sont toujours divulgués. DoorDash a réfuté les accusations du Bureau de la concurrence en indiquant que celui-ci s'est trompé. Les frais qui nous aident à exploiter la plateforme et à payer les Dashers, les livreurs de l'entreprise, sont toujours divulgués aux consommateurs, tout au long du processus de commande, incluant de passer en revue la commande avant de soumettre le paiement final, a plaidé le géant américain par communiqué. La multinationale, qui mène ses activités dans plus de 30 pays, a ajouté qu'elle s'est toujours conformée aux changements réglementaires. Nous croyons que cette demande est une tentative excessivement punitive de faire un exemple avec un chef de file de l'industrie dans le commerce local, a-t-elle mentionné. L'entreprise DoorDash, dont le siège social est établi à San Francisco, en Californie, a été fondée en 2013 par trois étudiants de Stanford, Andy Fang, Stanley Tang et Tony Xu. En 2024, elle a réalisé près de 2,6 milliards de livraisons. Plainte contre Uber, Skip the Dishes et Maple Bear. Option consommateur a porté plainte à l'Office de la protection du consommateur, OPC, contre trois entreprises de livraison, Uber, Skip the Dishes et Maple Bear, Instacart. Celles-ci ne respectent pas les nouvelles exigences de la loi sur la protection du consommateur concernant les pourboires, selon les observations de l'organisme faites au début du mois de juin. Ces plateformes amènent les consommateurs à se montrer plus généreux lorsque vient le temps de conclure une transaction. Certaines utilisent des messages persuasifs comme « Vous êtes génial » ou « Vous êtes mon héros ». Dans certains cas, le montant du pourboire est présélectionné dans l'application mobile. Les commerçants font pression sur les consommateurs pour les inciter à laisser plus de pourboire que voulu ou à en donner dans des contextes où ils n'auraient pas souhaité le faire. Le pourboire doit rester un geste discrétionnaire du consommateur, a indiqué Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options Consommateur, par voie de communiqué. C'était « Le Bureau de la concurrence traîne DoorDash devant les tribunaux », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 13 juin 2025 dans Protégez-vous.
Montana et Delaney Prisnook, l'art de transmettre les savoirs ancestraux. Un texte de Nelly Guidici, paru le 22 juin 2025 dans l'Aquilon. Montana et Delaney Prisnook endossent deux cultures. La première, Gwich'in, du côté maternel, et l'Ukraine du côté paternel. Le caribou et le cuivre font partie intégrante de leur vie tant dans leur parcours artistique que dans leur parcours personnel. Il y a plus de 10 ans, Montana et Delaney Prisnook décident de fabriquer des bijoux à partir de fils de cuivre recyclés et de pièces perlées qu'elles conçoivent. Le cuivre est un matériau important dans leur histoire familiale. Leur grand-mère est née à Kugluktuk, anciennement connue sous le nom de Copper Mine, mine de cuivre. C'est une collectivité de plus de 1 000 habitants située dans la région de Kitikmeot, à l'embouchure de la rivière Coppermine au sud-ouest de l'île Victoria au Nunavut. Le cuivre est une ressource importante pour de nombreuses Premières Nations autochtones. Il est d'origine naturelle et malléable et possède des propriétés curatives et des pouvoirs de guérison pour le corps, l'esprit et l'âme, explique-t-elle. Facile à travailler avec les mains ou avec une pince et sans avoir à le chauffer, le fil de cuivre est un matériau merveilleux selon les sœurs Prisnook. Nous avons toujours eu du respect et de l'admiration pour les personnes qui travaillent les peaux. Nous sommes fascinés par les processus et les outils utilisés. Le travail des peaux est inscrit dans notre ADN depuis nos ancêtres. Notre peuple a travaillé les peaux, les a respectés et les a utilisés pour survivre, car c'était le matériau principal des abris et des vêtements, confie-t-elle. Le peuple du caribou. Le bois de caribou est également au cœur de leur création et est un hommage à leur racine Gwich'in. Le peuple Gwich'in est appelé le peuple du caribou, car cet animal est central dans leur culture. La hart de Porcupine est leur principale source de nourriture, d'outils et de vêtements depuis des temps immémoriaux. Leur inspiration est sans limite et la couleur du bois qu'elles intègrent dans leur création peut les guider vers un motif particulier ou un choix de couleur spécifique pour le perlage. Leur grand-mère leur a enseigné les gestes et transmis les motifs perlés que les deux artistes utilisent aujourd'hui dans leur réalisation. Il y a toujours une forme qui devient une sorte de ligne directrice et on peut s'inspirer des formes des bois de caribou. On s'inspire aussi des variations de couleurs qui se trouvent dans le bois, car elles dépendent d'un grand nombre d'éléments et donnent des couleurs et des densités différentes. En fin de compte, c'est le matériau qui nous indique quoi faire. Un apprentissage au long cours. Durant leur enfance, les sœurs n'étaient pas toujours concentrées lorsque leur mère leur enseignait le perlage. Des années plus tard, en 2013, elles ont dû réapprendre les gestes élémentaires auprès d'amis de la famille. Ayant un parcours au long cours, elles continuent d'apprendre d'un grand nombre de personnes et découvrent parfois des techniques plus faciles tout en développant de nouvelles compétences. Notre technique actuelle est vraiment une combinaison de la façon dont on nous a enseigné et de ce qui fonctionne le mieux pour nous, parce qu'il y a beaucoup de techniques différentes, surtout dans une communauté comme White Horse, où de multiples nations se côtoient, explique Montana Prisnook. Un projet familial pendant la pandémie. En mars 2020, alors que la pandémie de COVID-19 force les résidents du Yukon et de Whitehorse à l'isolation, Montana et Delaney décident de se lancer dans l'apprentissage du tannage traditionnel des peaux de caribou. Ayant conservé plusieurs peaux qui leur ont été offertes depuis 2015, elles réalisent que c'est le bon moment pour apprendre les gestes ancestraux et construire une structure dans leur jardin qui deviendra, par la suite, leur poste de tannage. Contrairement aux peaux de caribou, plus petites et faciles à travailler, les peaux de rhino demandent beaucoup plus de temps et de patience. Margaret Douville, experte en tannage de peaux de rhino, a partagé son expérience et ses techniques avec Montana et Delaney en 2020. Membre de la Première Nation Tlingit de Teslin, elle a appris le tannage auprès de sa grand-mère dès son plus jeune âge. Mary Jane Moses, originaire de Fort McPherson et coordinatrice du patrimoine au sein de la Première Nation Wuntun Gwich'in de Old Crow, leur a aussi transmis son savoir. Grâce à des vidéos, nous avons pu apprendre le langage Gwich'in et les noms des différents outils et les peaux, indiquent les sœurs. Par ailleurs, le lien familial et communautaire reste inébranlable, et la connexion demeure par la transmission et le don de peau malgré l'éloignement. Chaque fois que des membres de leur famille d'Inuvik leur rendent visite, ils leur apportent des peaux de caribou. Transmettre les gestes d'une génération à l'autre. Depuis 5 ans, elles n'ont jamais cessé de tanner les peaux et ressentent un immense honneur et un grand privilège de reproduire ces gestes qui sont inscrits dans leur histoire familiale. Leur grand-tante, Caroline Moses, a été la dernière des matriarches de leur lignée à tanner les peaux. À leur tour, dans une volonté de partager leurs connaissances afin que le savoir ne se perde pas, Montana et Delaney participent à des camps traditionnels au cours desquels les jeunes des collectivités peuvent s'initier aux gestes ancestraux sur des peaux collectées par les sœurs. Cette transmission aux jeunes générations est une étape très importante dans leur parcours et elles estiment qu'il est de leur devoir de partager à leur tour ce savoir, elles qui ont tant appris auprès de plusieurs personnes aînées. Nous continuons à aller de l'avant, d'enseigner aux jeunes et de les faire participer, d'apprendre non seulement de nos personnes aînées, mais aussi des aînés des collectivités dans lesquelles nous vivons. En fournissant un espace sûr pour que les membres des différentes Premières Nations du Yukon pratiquent leur culture et leurs traditions, le tannage des peaux joue un rôle important sur la santé mentale. Reproduire les gestes ancestraux au cœur du territoire traditionnel apporte non seulement un sentiment de bien-être, mais aussi un sentiment fort de connexion entre les communautés. C'était Montana et Delaney Prisnook, l'art de transmettre les savoirs ancestraux. Un texte de Nelly Guidici, paru le 22 juin 2025 dans l'Aquilon.
Rétroviseur, que faire avec nos grands disparus? Un texte de Guillaume Bourgault-Côté, paru le 22 juin 2025 dans l'Actualité. Le décès de Victor Lévy-Beaulieu a ravivé un débat que l'Actualité avait abordé en 2023. Citation: à une autre époque, nous n'aurions pas eu besoin de parler de funérailles nationales dans une lettre ouverte. Pour une figure aussi centrale de la culture d'une nation, cela aurait été de soi. Fin de citation. Les deux filles de Victor Lévy-Beaulieu se sont indignées publiquement de la décision du gouvernement Legault de ne pas accorder de funérailles nationales au prolifique et percutant écrivain. Elles n'ont pas été les seules. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce choix, souvent présenté comme le reflet d'un manque de culture au sommet de l'État. Citation: cette décision est à l'image de la médiocrité de ce gouvernement. Une grotesquerie, pour reprendre un mot de l'écrivain. Fait de citation, a par exemple écrit dans Le Devoir, François Ouellet, professeur et auteur d'un livre autour de VLB. Le Parti québécois a saisi l'occasion pour s'interroger sur, citation, l'arbitraire gouvernemental dans la désignation des personnalités honorées par des cérémonies d'État, fin de citation, et revendiquer, citation, des critères définis pour les funérailles et hommages nationaux. Fin de citation. La formation souverainiste a aussi soutenu que, citation, il n'y avait plus aucune raison que l'État participe à la partie religieuse des funérailles, fin de citation, avant de se rétracter complètement quelques heures plus tard. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon a plaidé une erreur de communication. Le cas de Victor Lévy-Beaulieu n'est pas nouveau. Chaque fois qu'une personnalité marquante meurt, le gouvernement se pose la question des funérailles nationales et tranche en fonction de « pas grand-chose », soulignait dans nos pages en 2023 notre collaboratrice Christine Saint-Pierre, ancienne ministre des Relations internationales, de qui relève le protocole du gouvernement du Québec. Citation: aucun critère ou grille d'analyse n'existe, c'est du cas par cas, souvent motivé par la pression populaire. Fin de citation. Les réflexions qu'elle avait livrées dans la foulée d'une controverse semblable font l'objet de notre rétroviseur de la semaine. Une vérification de ce qui s'est passé dans l'histoire tente à montrer que les filles de Victor Lévy-Beaulieu se trompent en évoquant une époque où le décès d'un écrivain comme VLB aurait presque automatiquement mené à l'organisation de funérailles nationales. Au contraire, celles-ci ont toujours été accordées avec grande parcimonie, peu importe le gouvernement en place, médiocrité ou pas. La liste officielle des personnalités à qui on a offert de telles funérailles est bien courte et ne compte qu'une seule femme, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, en 2016, sous le gouvernement Couillard. Chez les artistes, seuls Jean-Pierre Ferland, 2024, gouvernement Legault, Gilles Carle, 2009, gouvernement Charest, Jean-Paul Riopel, 2002, gouvernement Landry, et Gaston Miron, 1996, gouvernement Bouchard, ont eu cet honneur, de même que le gérant de Céline Dion, René Angélil, 2016, gouvernement Couillard. Si on tient compte de ceux qui ont eu une « cérémonie de commémoration nationale », l'équivalent laïque des funérailles nationales, on peut ajouter Lise Payette, 2018, et Carl Tremblay, 2023, à la liste des artistes honorés. Il est à noter que la famille de Félix Leclerc avait décliné la proposition en 1988, préférant une cérémonie intime à l'île d'Orléans. Combien d'autres auraient mérité un tel cérémonial qui permet l'expression d'un deuil collectif? Dans son texte, Christine Saint-Pierre rappelait que des artistes importants comme Jean Lapointe et Michel Côté avaient eux aussi été ignorés. Même chose pour les écrivaines Marie-Claire Blais, décédée en 2021, et Anne Hébert, 2000. Où tracer la ligne, en fait? En fonction de quoi? L'importance de l'œuvre? La popularité de l'artiste? Son influence sur la société? Dans le domaine du hockey, Guy Lafleur, 560 buts, a eu des funérailles nationales en 2022, mais pas Mike Bossy, 573 buts. Bien sûr qu'au-delà des statistiques brutes, Guy Lafleur, qui a joué à Montréal, a été plus important au Québec que Mike Bossy, qui a passé sa carrière à New York. Mais on utilise l'exemple pour illustrer qu'il y a forcément un aspect intangible dans ces questionnements et qu'on voit mal comment un guide qui exclurait tout arbitraire pourrait être élaboré. N'empêche que le flou actuel est excessif, comme le soulevait l'ancienne ministre Saint-Pierre. Citation. Au cours de mon mandat au ministère des Relations internationales, 2014-2018, j'ai demandé que l'on réfléchisse à l'idée de mettre en place un véritable processus de reconnaissance officielle lors des décès de personnalités marquantes, disait-elle dans sa chronique. Le cas par cas allait, à mon avis, devenir intenable. De très grands noms vont nous quitter dans les prochaines années. Il faut prévoir la chose. Fin de citation. Des constats qui, 2 ans plus tard, paraissent plus pertinents que jamais. C'était « Rétroviseur, que faire avec nos grands disparus ?» Un texte de Guillaume Bourgault-Côté, paru le 22 juin 2025 dans « L'actualité ».